Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. À la une, chapeau Choupo. Éric Maxime Choupo-Moting qui a enfin compris qu'un ballon pouvait franchir la ligne de but adverse. Et oui, c'est autorisé. Plus sérieusement, le capitaine des Lions indomptables a fermé quelques bouches hier, la mienne notamment, porté par les encouragements d'un parc qui depuis longtemps en a fait son chouchou. Le Camerounais a été le grand artisan de la victoire du PSG hier contre Toulouse. Une réponse claire adressée à ceux qui s'interrogeaient sur sa présence au sein de l'effectif clinquant du Paris Saint-Germain. Pas de question à se poser en revanche sur la présence de Carlos Bianchi au sein de notre équipe, celle de Radio Foot. Bonjour Carlos.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Très bien et content d'être avec vous.
Oui, et vous êtes choyé par le PSG en ce moment, on en parle dans quelques instants. Bonjour Franck Simon.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Pas mal de joueurs africains au programme, je n'en dis pas plus aujourd'hui. Choupo-Moting, mais pas que, ça va vous faire plaisir ça.
Ouais. Je suis en train de loucher sur la feuille de mon voisin, donc je vois de quoi il va en retourner.
Ne dévoilez rien, s'il vous plaît. Votre voisin, c'est Saïd Hamda, le jeune espoir de l'équipe de Radio Foot. Bonjour Saïd.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Notre porteur d'eau, puisque littéralement, vous venez de nous servir des verres d'eau juste avant le coup d'envoi de cette émission. Je dévoile les coulisses. En Angleterre, Mohamed Salah avait beaucoup moins de bouche à fermer que Choupo. Le talent de l'Égyptien n'est plus vraiment à démontrer, mais on ne se lasse pas de ses récitals. Seuls les Gunners d'Arsenal s'en seraient bien passés. Samedi, le troisième artiste à l'honneur ce lundi. Il est gaucher, il porte les couleurs du Barça. Il a régalé avec un doublé, une passe décisive contre le Betis Séville ce week-end. Et il est champion du monde. Il ne s'appelle donc pas Lionel Messi. Radio Foot, merci à David Finzel et Laurent Salerno, les têtes pensantes de l'émission. C'est parti. Mais, avant de dévoiler, de dérouler ce programme, une légende, sachez-le, du PSG a assisté au match face à Toulouse. Hier, cette légende, elle a même rencontré Nasser El Khelaifi. La chance. Et cette légende, elle est avec nous, Carlos Bianchi. Racontez-nous un petit peu, vous étiez avec Nasser El Khelaifi hier?
J'étais, ça fait 15 jours, pour la première fois, le jour qu'ils ont joué contre Nîmes.
Ah, c'était contre Nîmes, c'était pas
contre
hier.
Nîmes. Et
hier, vous étiez au parc, alors?
Oui, et j'étais avec lui aussi, je suis allé le voir.
Ah, d'accord. Donc, une fois lors de la première journée et l'autre fois hier lors de la troisième journée. Alors, pourquoi est-ce qu'il vous invite comme ça, les dirigeants parisiens?
Non, parce que je pense que Paris Saint-Germain, en ce moment, il a compris que ce que nous avons, les joueurs qui sont passés dans l'histoire, ça fait partie de l'histoire. Et vraiment, on a tous des racines. Et il faut y croire qu'il faut pas les laisser de côté. Franchement, le président, il est en train de travailler parce que hier, je me suis trouvé avec 7 ou 8 Brésiliens.
Ouais, vous étiez avec d'autres joueurs. Et alors, justement, entre deux matchs au Parc des Princes, vous avez eu l'occasion également de participer à la PSG Experience. On va découvrir ça.
Bonjour Carlos, bonjour. Une légende du club ici du Paris Saint-Germain. Vous êtes le premier joueur à refaire cette visite, le PSG Experience. Je vous propose de vous faire visiter chez vous.
Très bien.
Vous me suivez?
Merci beaucoup. On y va.
Il ressemblait à quoi le Parc des Princes?
Non, c'était comme ça. Bon, il n'était pas dessiné comme il est maintenant, mais. Il y a un match contre Barcelone ici, j'ai eu la triple fracture de la jambe. Bonjour, bonjour.
La relève. Est-ce que vous avez des souvenirs ici avec ce public?
Je le fais élever pas mal de fois du siège.
C'est vrai. Moi, j'ai une anecdote à vous demander. Parce qu'on m'a dit, alors j'ai entendu dire que vous aviez des problèmes de vue.
Ouais,
à l'époque,
ouais.
Vous êtes myope,
toujours,
c'est ça?
Toute ma vie.
Mais alors, comment vous avez fait pour marquer autant de
parce
buts?
Parce qu'il y avait du flair. Je savais où il allait le cuire.
Non, c'est pas vrai.
Eh oui. Alors,
à l'instant de buteur.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Donc, vous avez réussi 37. À marquer 37 ouais. buts dans ouais, une ouais. saison comme ça, à rentrer dans l'histoire et le panthéon du Paris Saint-Germain sans y voir clair.
Toute ma vie, j'ai marqué des buts et toute ma vie, j'ai pas vu grand-chose.
Ça, c'est très marrant.
Encore aujourd'hui.
Extrait d'une vidéo, on découvre que Carlos Bianchi ne voyait rien sur un terrain, une vidéo que l'on peut voir sur les internets, une vidéo réalisée par la communication du Paris Saint-Germain, qui donc fait visiter aux anciennes légendes du club. Vous avez joué dans les années 70, ouais. Vous, Carlos Bianchi, qui fait donc visiter le Parc des Princes aux anciens joueurs.
Ils m'ont invité à visiter parce que là, il y a une visite touriste. Touristique maintenant.
Mais c'est ça, le PSG Experience. Composément une visite
oui,
du stade.
Comme Barça, comme ils font à Boca Junior, comme ils font à Real Madrid et tout ça. Ils m'ont invité et j'étais le premier qui visitait.
Tant mieux. C'est mérité.
Tant mieux, parce qu'on rend hommage aux légendes. On a souvent reproché au PSG version...
De s'en débarrasser?
Voilà, au PSG nouvelle version de ne pas se, assez se souvenir de son histoire, franchement.
Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il faut qu'on corrige l'appellation de dire une ancienne légende. C'est un ancien,
oui, une légende tout court.
Mais c'est une légende tout court. Il l'était hier, il l'est aujourd'hui, et il le sera toujours, parce que pour ce qu'il a pu accomplir sous ces couleurs-là, et puis tout simplement par sa carrière dans le championnat de France. Donc quand on parle de lui, on imagine le joueur pour les plus jeunes. Et puis pour les plus anciens, on a des extraits de match, on a des petites vidéos qui traînent. Et puis les plus jeunes aussi, ils savent aussi ce que Carlos a pu apporter sur un banc, parce que c'est pas qu'un grand joueur, c'est aussi un grand entraîneur. Bonjour. On a la chance de l'avoir.
Bonjour Salim Bangali. On a également la chance d'avoir Salim Bangali qui nous a rejoint.
Ouais, exactement.
Il n'y a plus de gilet jaune.
Mais vous savez, dès qu'il fait un peu trop chaud, les trains, les RER ont un peu de soucis. Voilà. Et c'était le cas, apparemment.
Allez, légende passée, légende présente au Parc des Princes après tant Carlos Bianchi, ouais. Le grand, l'immense Eric Maxime Choupo-Moting.
Pardon, je me suis trouvé hier avec quelqu'un que je ne voyais pas depuis 40 ans.
Ah, qui ça?
Lionel Justier.
Alors, qui est Lionel Justier?
C'était un joueur de football de la première division de Paris Saint-Germain des années 76, 77, 78, un coéquipier à moi, et on s'est mis à parler, il a 63 ans. Et je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, oh, je suis à la retraite. À 63 ans, il me dit, oui, j'ai plein, je vais plus travailler.
Et vous aussi, vous êtes à la retraite après une...
Oui, mais j'ai 70 ans quand même.
Après une carrière...
J'ai 70 ans et j'arrive à l'heure.
Vous arrivez à l'heure.
Exactement. Exactement. Oh, le tacle de l'avant-centre.
La jambe est cassée.
Il arrive à l'heure, il respecte pas forcément toujours le déroulé de l'émission et il continue à parler alors que c'est, j'essaye,
On revient.
Difficilement d'amorcer une transition. On oublie Bianchi, on passe à Choupo.
Ballon récupéré par Verratti, Di Maria. Choupo-Moting qui tente le 1-2, Choupo-Moting encore, Choupo-Moting qui va marquer. Andrel Di Maria, Sarabia qui a accompagné le mouvement, Di Maria qui fixe, qui va trouver Bernat, qui va trouver Choupo-Moting.
Je vis ma vie, je suis content avec l'équipe et je m'entends bien avec tout le monde et j'adore aussi bien sûr les supporters du PSG. Et après, si j'ai l'occasion de jouer, j'essaie de faire mon mieux et heureusement ça a bien marché aujourd'hui.
Ah oui, ça a bien marché, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ça a donné, comme il dit lui-même.
Choupo et le,
ça a donné.
Et le Paris Saint-Germain, effectivement, c'est un petit peu son slogan, sa punchline, comme on dit. Ça a donné, troisième journée de Ligue 1. Succès 4-0 du PSG à la maison face à Toulouse. Grâce, donc, notamment à un Eric Maxime Choupo-Moting inspiré. On l'annonçait sur le départ, celui dont la présence à Paris a toujours été difficile à justifier sur le plan sportif, on va pas se mentir, mais il est capable de manquer l'immanquable certes, mais il est également capable de régaler comme hier. Choupo-Moting, je finis Carlos, entré en cours de jeu ce dimanche, qui a signé donc un doublé et son premier but, le premier de Paris dans cette rencontre, et même un petit chef-d'œuvre, enchaînement zidanesque, roulette, frappe du pied gauche, il était poussé vers la sortie, le Lion indomptable, il s'est accroché. Et on imagine, et encore plus après ce qu'on a vu hier soir, qu'on va avoir besoin de lui du côté du PSG. Neymar, voilà. Cavani, Mbappé se sont blessés, on va y revenir. Salim, résultat, Choupo, il a envoyé un message fort.
Oui, il a surtout montré qu'effectivement, il était présent. Le problème, c'est que lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, donc on le rappelle, une carrière plutôt honorable jusqu'ici, notamment en Allemagne. En Angleterre, il a essayé de faire son petit accessit avec Stoke, ça n'a pas forcément fonctionné, mais une carrière plus qu'honorable. Lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain, le problème, c'est que dans sa zone, vous avez Mbappé, vous avez Cavani, vous avez Neymar. Et inconsciemment, ou même consciemment, on le compare à ces hommes-là. Donc oui, il est forcément en dessous. Et quand parfois il se met peut-être à rater des opportunités. Oui, il a parfois raté des immanquables. Là, on se dit, ah, mais qu'est-ce qu'il est nul. Il est largement en dessous des autres. Oui, mais on a oublié qu'il est passé par Bundesliga. Et si à un moment donné, vous passez par Bundesliga et que vous marquez des buts, c'est que vous n'êtes pas mauvais. Et hier, il a prouvé.
L'immanquable, c'est bien sûr ce raté invraisemblable contre Strasbourg l'an passé qui a empêché au PSG de valider son titre de champion. Carlos.
J'étais avec ma femme à l'intérieur du match. On était contents tous les deux que c'était lui qui l'a marqué. Je te dis la vérité, parce que quand tu as joué comme avant-centre, et tu rates, parce que lui, il n'a pas raté, il a élevé le but.
Oui.
Le ballon, il allait
au fond du filet. Il avait stoppé le ballon sur la ligne.
C'est bien, merci Carlos de préciser les choses.
Oui, c'est pas quelque chose qu'il a raté. Bon, alors, je te dis la vérité, pour lui, ça devait être un calvaire. il attendait ces moments-là de marquer un but parce que tout le monde encore, il s'est rappelé ce qu'il avait fait lui. Et je suis content, je suis très content parce qu'il, pas qu'il a marqué un, qu'il a marqué deux. C'est un joueur en avançante, il va marquer, il va rater, il va enlever, il va tout faire. Et hier, il a fait gagner Paris.
Un joueur qui portait le brassard de capitaine lors de la dernière CAN, capitaine des Lions Indomptables, qui était alors champion d'Afrique en titre. Un joueur qui méritait un petit peu mieux que d'être résumé à ce geste. Alors, c'est pas un raté à proprement parler, mais à ce geste.
Vous savez pourquoi, Hugo, on en a parlé quand il est arrivé la saison dernière. C'est parce qu'en fait, il arrive avec l'étiquette de joueur de l'entraîneur Tourelle. C'est Tourelle qui est allé le chercher, il le connaît, il l'a eu à Mayence.
Ils ont le même agent.
Et ils ont le même agent, donc forcément, ça aide. Mais lui était venu comme joueur de complément d'effectif. Donc, dans la tête des gens, en tout cas, certains observateurs, les médias, etc., on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Effectivement, vous l'avez dit, Salim l'a rappelé, quand il y a des ratés comme ça, on ne comprend pas. Sauf que lui, il sait très bien pourquoi il est là, il sait pourquoi il est payé, et puis il n'a jamais caché qu'il manquait effectivement de vitesse. Mais en revanche, on sait que c'est un garçon qui peut jouer à plusieurs postes, il peut le faire. Il l'a fait en équipe nationale, il l'a fait au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il y a des blessures, on va y revenir, des blessures importantes. En l'absence de certains, ben, finalement, on est bien content d'avoir un Choupo-Moting, parce que c'est tout sauf un âne sur un terrain, c'est un joueur international, c'est un joueur qui mérite tout simplement le respect, et jusqu'à présent, je trouve que la Ligue 1 en a manqué vis-à-vis de lui, comme elle en a manqué vis-à-vis d'un entraîneur comme Jardim. On se moquait de Jardim à un moment donné, pourtant c'est un bon entraîneur.
Salim Amghali.
Oui, c'est vrai que quand Choupo-Moting a été acheté, c'était pour dépanner au final, et vous l'avez très bien résumé, quand il y a une blessure, quand il faut faire tourner l'effectif aussi, Coupe de France, Coupe de la Ligue ou autre, mais Choupo-Moting, il y a eu des blessures, il en a profité et il est là pour montrer, je peux vous aider les gars, vous inquiétez pas, dans les différentes compétitions, quand il y a un joueur qui est pas là, qui est blessé, je suis
souviens-toi, la fin de saison, malheureusement, il a beaucoup joué.
Oui.
Il a beaucoup joué, mais c'est le moment où Paris Saint-Germain perdait tous les matchs. Donc, t'as l'impression que c'est lui qui est un peu derrière tout ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Voilà.
C'est toute l'équipe qui
gonge. Attention, pour moi, c'est un joueur qui doit avoir de la continuité. Parce que c'est un physique assez grand.
Ouais.
Et il n'est pas là pour jouer un match tous les 2 mois. Il est pour jouer très souvent.
Il a besoin d'avoir ça pour trouver le rythme.
Oui, du rythme, parce que tu sais, c'est pas facile un mec avec 85 qui se va mesurer, il doit peser 90 kilos, facile.
Ouais, c'est une masse.
Alors, il faut qu'il bouge.
Mais c'est quelqu'un qui est un vrai travailleur, et ça me fait toujours plaisir de savoir que ce public du Paris Saint-Germain l'apprécie. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il a pas marqué beaucoup de buts. Je crois que c'est 3 buts en Ligue 1 la saison dernière.
Exactement.
C'est pas beaucoup. Là, il a commencé. Et vous parliez des 2 buts, Hugo, mais il est sur un 3e but, hein. Le but qui est dévié par Gonçalves, c'est lui qui est aussi dessus. Voilà. Donc, c'est bien aussi de voir ce match dans la globalité. Maintenant, c'est à lui d'enchaîner. Je pense qu'il va le faire.
Oui. Et il va peut-être le faire par la force des choses.
Oui.
C'est pas blessé, Cavani?
Ouais. C'est fini, hein, Cavani.
Oui, il a fait signe, tout à fait. Ouais.
Choupo-Moting pour Kylian Mbappé.
On était emporté par sa
cuisse. Ou la cuisse.
Ou la cuisse.
Monsieur, s'il vous plaît, les urgences.
C'est ici.
Il a demandé le changement. Ça y est, c'est terminé pour Kylian Mbappé.
Appelez Doyle, dites-lui de me rejoindre dans salle 1.
Quelle soirée catastrophe pour le Paris Saint-Germain.
Et oui, quoi de neuf, docteur? De nouveau blessé, tout
simplement. Grosse production. Hein.
Et non des moindres, effectivement. C'est un blockbuster, ce radio-foot, des vedettes, des légendes, Carlos Bianchi, et puis des montages sonores extrêmement
sophistiqués.
Gros budget.
Merci à Laurent Salerno, notre réalisateur. Cavani, Mbappé, sorti sur blessure, et ils manqueront plusieurs semaines de compétition. Saïd Hamda. Le cauchemar quelque part se poursuit pour les médecins du PSG. Oui. C'est vraiment une histoire qui dure en 2019, et même ça remonte même à avant 2019, cette histoire de blessés au Paris Saint-Germain.
C'est tout à fait ça. La liste des blessés s'allonge sans que Paris ne parvienne à trouver la solution. Nous sommes qu'à la 3e journée, et lorsque l'on recense le nombre de blessés, on est déjà à 7 joueurs indisponibles, dont une majorité titulaire. Donc à l'infirmerie, on a déjà Herrera qui est blessé au mollet, Kerrer blessé au pied droit, Draxler blessé au pied aussi, et hier sont venus s'ajouter Cavani, Diallo et Mbappé. Donc le docteur de 62 ans du Paris Saint-Germain s'appelle Eric Rolland, c'est un peu le médecin historique puisqu'il y était depuis 2007, et il est très critiqué en interne. Il a d'ailleurs été écarté la saison passée des terrains pour laisser place à Christophe Bedeau, ancien médecin de l'OM et de l'Olympique Lyonnais. Il est encore trop tôt donc pour juger son apport, mais l'hécatombe ne s'est pas stoppée. Le problème persiste et se répète année après année, et Paris ne veut pas croire qu'à la malchance. puisque c'est une situation qui a le don d'agacer Thomas Tuchel, qui s'est déjà plaint des successions d'absence l'an passé, des plaintes réitérées ce dimanche. Encore une fois, l'an passé, déjà Hugo, vous le soulignez à juste titre, le PSG devait composer sans la moitié de son équipe type, Thiago Silva, Meunier, Marquinhos, Di Maria, Neymar et Cavani. D'ailleurs, Cavani symbolise bien plutôt cette hécatombe depuis un an, l'Uruguayen. On est désormais à 5 pépins physiques depuis un an, jour pour jour quasiment. La profondeur du banc parisien est assez faible et peut en partie expliquer l'accumulation de blessures.
Franck Simon, vous vouliez réagir?
Ben non, parce que je vois pas très bien le lien entre le fait qu'il y a ce médecin qui est de retour et le fait qu'il y ait des blessures qui s'accumulent.
Non, il y a une continuité effectivement dans les blessures finalement.
Je vois pas du tout le lien entre les.
Alors justement, Carlos Bianchi,
je vous parle comme joueur et comme entraîneur.
Exactement. Éclairez-nous.
Non. Une chose, c'est la récupération d'un joueur que le médecin il peut se tromper. Mais dans la blessure, le médecin il n'a rien à voir. Là, il n'a rien à voir avec la blessure de Cavani. Il n'a rien à voir avec la blessure de Mbappé.
Et de Diallo non plus. Hein.
De Diallo non plus. Des menus, etc. Le médecin, là, ça compte pas. On peut pas juger un médecin parce que les joueurs, ils se blessent. On juge un médecin quand il met du temps à récupérer les joueurs. Qu'il y a des rechutes, il y a des fois qu'on fait récupérer. Le médecin, il dit, oui, il est prêt à jouer. Il n'est pas prêt à jouer, il y a une rechute. Là, le responsable, c'est le médecin.
Et la préparation physique, quand vous avez autant de blessures?
Non, le médecin, il n'a rien à voir, là.
Et non, mais au-delà du médecin, est-ce qu'on peut pointer du doigt le préparateur physique?
Le préparateur physique, là, oui.
Mais, et le médecin précédent, éventuellement, sur le manque de récupération d'un Cavani, parce que c'est récurrent, voilà. Ce serait peut-être bien de préciser, puisqu'on a eu la longueur...
Allez-y, oui, vous l'avez inscrit sur un...
Si tu l'as...
On a dit quelques semaines, mais vous pouvez...
3-4 semaines pour Kylian Mbappé.
Quatre semaines et 3 semaines pour
Cavani.
Voilà, 3 semaines pour Cavani, c'est la hanche droite, et donc les ischios pour Mbappé. Diallo, c'est, je crois que c'est juste 15 jours.
Oui, voilà, Diallo, c'est léger.
Donc, faut imaginer quand même, avec la durée qui a été évoquée, donc il y a la Ligue des Champions quand même dans...
L'équipe de France.
Dans 4 semaines, il y a l'équipe de France, évidemment.
Mais l'équipe de France, Albanie, Andorre.
Jusqu'à 3 semaines, puisque c'est la semaine du 17 septembre, la Ligue des Champions. Vous allez jouer possiblement sans Mbappé, sans Cavani, sans Neymar qui est suspendu. Oui, il sera là ou pas là, il est suspendu pour 3 matchs. Donc potentiellement, vous allez avoir une ligne d'attaque, Choupo-Moting, Di Maria, Sarabia peut-être. Enfin, c'est pas la même chose.
Alors justement, Neymar, cette hécatombe, est-ce qu'elle oblige désormais le PSG quelque part à durcir sa position? On peut pas se permettre de voir partir Neymar, même si éventuellement Dybala pourrait venir, parce que là, il y a moins de solutions en attaque.
Il faut qu'on parle franchement. On connaît la situation vraiment? Non. Parce que on connaît la situation, pour ce qu'il dit un, s'il dit l'autre, il y a un journaliste, un autre journaliste, mais la vraie situation, on ne la connaît pas.
Même vous qui parlez à Nasser,
vous ne pouvez pas savoir ce qu'il parle Leonardo avec Neymar ou avec le président. Alors, vous ne pouvez pas savoir si le mec, il doit rester, il ne doit pas rester, il doit partir ou il ne part pas. On ne sait pas, on ne sait pas. La question, c'est que dans une semaine, ça s'arrête le mercato.
Ouais, voilà.
Bon, vous avez un avis les autres sur cette question? Est-ce que Neymar, voilà, faut le bloquer maintenant que Mbappé et Cavani se sont blessés?
Quand t'as un talent de la nature d'un Neymar, malgré tout ce qui s'est passé ces derniers jours, dernières semaines, ces derniers mois, c'est tout de même mieux de l'avoir dans son effectif par rapport à l'adversité, et deux, sur le terrain, s'il est disponible. Maintenant, c'est le Paris Saint-Germain, la direction, qui a sans doute un autre avis, parce qu'ils attendent de savoir d'être fixés. Mais s'il est toujours dans quelques jours dans cet effectif, il doit être
la
sur le terrain.
La question, c'est aussi que Real Madrid ne marchait pas tellement. Et peut-être qu'il a besoin. Alors, si tu l'as demandé un chiffre au Real Madrid vient avec l'argent, qu'est-ce que tu fais? La question est, on connaît pas la situation,
non,
vraiment.
Non.
Moi, je pense si Carlos Bianchi avait joué maintenant, le Real Madrid et le Barça se seraient arrachés.
Exactement.
Carlos Bianchi, les
220 millions de Neymar.
Même si le Barça, ça lui rappelle pas que des bons souvenirs, il l'a expliqué tout à l'heure dans le son, hein.
Effectivement. Désolé pour ce rappel. Deuxième victoire, donc, pour le PSG en 3 journées de Ligue 1. On rappelle que le champion de France en titre s'était incliné la semaine passée à Rennes, qui s'incruste une nouvelle fois dans notre sommaire.
Le duel des deux M. Mendy face à Martin, avantage gardien. Quelle première! Alors ça passe pour Traoré. Le match italien, tête levée,
oh, sans montrer
que c'est bien pour Niang. Le centre est parfait, la conclusion l'est tout autant.
Carlos Bianchi est très remonté par la défaite de son ancien club Strasbourg à domicile contre Rennes hier. Et pour cause, Rennes est en tête de la Ligue 1 après 3 victoires en autant de rencontres. Et en grande partie, Franck Simon s'est signaler grâce à ses joueurs africains. Édouard Mendy, on vient de l'entendre, le portier sénégalais, arrête un pénalty alors que le score est de 0-0, c'est dire si c'est important. Et Mbaye Niang, auteur du deuxième but des Bretons sur une passe du Malien à Marie Traoré, deux réalisations déjà cette saison pour Niang, deux passes décisives pour Traoré. On peut également parler, si on évoque les joueurs africains, de Rennes, de Jérémy Morel,
international malgache,
Kamavinga né en Angola.
Anglaise.
Une très très belle vitrine quand même pour le football africain que ce stade rennais, leader provisoire de la Ligue.
Ça fait un petit moment que le stade rennais puise dans ce football africain. Il y a eu de grands messieurs comme Feu Laurent Pocou, faut pas l'oublier. Je pense que Carlos a été un peu à la lutte. Voilà, Carlos est allé lutter avec lui pour le titre de meilleur buteur. Mais c'est bien. Il y a le travail des joueurs internationaux africains qui est à souligner. Ce sont des joueurs importants parce que tous titulaires en équipe nationale. Mais il y a aussi le rôle de l'entraîneur Stéphane, fils de Guy Stéphane, qui est arrivé en cours de route et qui fait du bon boulot.
C'est le fils
de Guy Stéphane.
Tout à fait.
Voilà. Donc bon sang ne saurait comment on dit ne saurait mentir.
C'est,
voilà.
Exactement.
Je cherchais le.
Pareil.
Mais franchement, c'est du bon boulot. Et puis Stade Rennais, c'est vrai que il y a un effectif riche, un effectif qui a quand même perdu Issa Sarr.
Ils ont perdu Sebaïni aussi.
D'autres grands joueurs, d'autres bons joueurs africains du moment qui ont joué la finale de la CAN.
Ils savent les remplacer, donc c'est plutôt bien. Après, c'est de voir si dans la durée, ils vont pouvoir continuer.
C'est ça, parce que souvent avec Rennes, on a régulièrement cette impression-là, sur les débuts de saison notamment, où ça démarre plutôt pas mal, et on commence inconsciemment à s'emballer. Après, il y a surtout une continuité, parce que la fin de saison a été plus que bonne avec la Coupe de France remportée, donc là, on n'est pas que sur 3 journées au final. On est sur plusieurs mois et plusieurs mois avec de la cohérence dans le jeu, les résultats.
Et le trophée des champions, je sais pas si sur un terrain pourri, mais on a vu une équipe de Rennes qui jouait bien au football, qui était bien en place.
Ça va être quand ils commencent à jouer entre semaines. Quand ils commencent à jouer la
Coupe d'Europe.
Oui, la Coupe d'Europe.
Parce que Strasbourg était dans cette chose de Coupe d'Europe.
Il a mis la réserve presque.
Oui. Strasbourg qui est
au milieu de son barrage contre Francfort.
Tu laisses des plumes forcément parce que tu as envie de faire quelque chose.
Parce qu'en plus, tu n'as pas deux équipes. Tu as une seule équipe. Et celui qui les réserve, il les réserve.
Oui.
Saïd Hamda, vous vouliez ajouter quelque chose.
Je voulais mettre l'accent en fait sur Édouard Mendy, qui est pour moi la saison dernière le meilleur gardien de Ligue 1, et en l'engageant cette année.
Il était à Reims.
En l'engageant cette année, Rennes a pris un très très bon gardien, et dans toutes les équipes, il faut un bon gardien. Donc voilà, le Sénégalais était titulaire au début de la CAN. C'est vraiment une valeur sûre. Là, il a pas joué les premiers matchs de Ligue 1 parce qu'il n'était pas disponible. Là, il revient, il a fait sa première, et je pense que pour Rennes, ça va être vraiment déterminant d'avoir un gardien de ce niveau-là.
Oui, Franck Simon.
J'espère que les votants des RFI, en tout cas ceux qui établiront la liste, ne l'oublieront pas pour le trophée Marc-Vivien Fauhé.
Parce que
s'il y avait bien quelqu'un qui méritait, effectivement, et là pour corroborer ce que tu disais, qui aurait mérité le trophée la saison dernière, c'était Doudou Mendy. Je suis désolé, malheureusement, il faisait pas partie de la shortlist en septembre, la liste où on avait mis tous les Africains. Pourtant, il était déjà international pour le Sénégal. Curieusement, il a été oublié. Ça peut arriver à tout le monde. J'espère qu'il va confirmer avec Rennes et qu'il va l'avoir.
À lui de performer.
Double correctif pour Édouard Mendy. Hier, le pénalty, il l'arrête alors que le score est déjà de 1-0 pour Rennes.
Mais bon,
il maintient son équipe à flot. J'ai dit une petite bêtise. Un dernier mot sur Rennes. Qui veut se lancer? Tout a été dit.
Confirmé.
On s'est tellement moqué ces derniers exercices du Stade Rennais que c'était moche sur le terrain, qu'il n'arrivait à rien, qu'il y avait des moyens et qu'il n'y arrivait pas. Là, on a quand même envie, effectivement, de les voir embêter les grosses équipes.
Mais on est en position d'attente, en fait. On se dit, est-ce qu'on peut se permettre de commencer à s'emballer? On a tellement été déçus par le passé qu'on va encore attendre et pourquoi pas espérer.
Oui, d'autant qu'il reste encore des matchs pour achever cette troisième journée
de Ligue 1. Il fait de bon boulot.
Olivier Létang, ancien du PSG, ancien de Reims, décidément. La boucle est bouclée tout de suite dans Radio Foot. Une autre formidable publicité pour le football africain, mais on va changer un petit peu de dimension.
L'année vers Alexander Arnold, il a du temps encore pour ajuster son centre et trouver Firmino. Oh, Mohamed Salah,
Par le maillot, évidemment, penalty.
Salah with his left foot, score.
Au moment de relancer, Fabinho peut trouver même Mohamed Salah. Oh, il est passé face à David Luiz. Les jambes de feu de Mohamed Salah jusqu'au bout. Mohamed Salah!
Oh, it's absolutely sensational from Mohamed Salah. The skill to get beyond David Luiz.
Bon, je crois que vous avez deviné de qui on va parler. L'Egyptian King, désolé pour l'accent, le roi d'Égypte en anglais.
Qu'est-ce le raïs égyptien.
Qu'est-ce qui se passe, mon cher Franck Simon? Ça vous a fait
en arabe en plus.
Ça vous a plu cette musique quand vous avez bougé la tête?
Ça m'embête un peu de bouger la tête parce que c'est le club de Liverpool et que moi je suis Toffy et donc supporter d'Everton.
Ah, d'accord.
Mais j'avoue prendre plaisir, j'avoue, parce que c'est un club, Liverpool fait confiance à des joueurs africains, Sadio Mané, Joël Matip, on a Mo Salah qui cartonne, Mo Salah Khalid, son nom complet, donc parfait quoi. Tant mieux pour eux.
Salah magistral ce week-end samedi sur la pelouse d'Anfield face à Arsenal, doublé pour l'Égyptien, grand artisan du succès 3-1 de son équipe. Le deuxième but particulièrement de Mo Salah est fantastique, une chevauchée fantastique.
David Luiz qui lève ses bras comme d'habitude.
Le Camerounais Matip, troisième buteur de Liverpool. Trois matchs, trois victoires pour cette équipe des Reds qui n'a Dieu que pour la Première Ligue après avoir remporté la Ligue des Champions la saison passée. Et du coup, on lui cherche un défaut. À cette équipe.
Oui. D'ailleurs, comme Salim. Pour plusieurs équipes de première ligue, les gros noms, j'entends, c'est défensivement. Alors, c'est pas paradoxal quand vous avez Virgil van Dijk, c'est-à-dire l'un des meilleurs défenseurs du monde. Quand vous avez Joël Matip, d'ailleurs, le duo van Dijk-Matip, ça marche bien, hein, rappelons-le. Quand vous avez deux des meilleurs latéraux d'Angleterre, voire même au-dessus de Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson.
Peut-être le meilleur gardien du monde.
Et même s'il n'est pas là, on le rappelle.
Oui,
c'est Adrian.
Il n'est pas là.
Actuellement, justement, c'est Adrian. Et au final, c'est une équipe de Liverpool qui quand même concède beaucoup d'opportunités. Déjà, il n'y a pas eu qu'une sheet depuis le début de la saison, même en Super Coupe d'Europe. Et au final, comme Manchester City, comme Chelsea, comme Manchester United, comme Tottenham, comme Arsenal, les six gros noms de Premier League ont des difficultés défensives. Ces six gros noms concèdent beaucoup d'opportunités. Alors Liverpool, vous allez me dire, au final, n'a pas concédé beaucoup de buts, que 3 buts en 3 matchs. Mais voilà, si vous me demandez de chercher un petit défaut, c'est là où je trouverai où l'année dernière, on a eu beaucoup de clean sheets. Et bien là, on n'en a toujours pas. C'est là où on se dit que Liverpool a un point d'amélioration. Après, offensivement, vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, quand Salah est au-dessus, ou plutôt quand Mané et Firmino sont un petit peu en dessous, car sur ce match, ils ont été un petit peu en dessous, Salah a rayonné. Quand Salah est un petit peu en dessous, c'est Mané qui rayonne et Firmino. Au final, les trios offensifs, eh ben, il est bien là, Liverpool.
Mais l'équilibre défensif, c'est toujours un casse-tête pour un entraîneur, Carlos Bianchi.
Et surtout, quand ce sont des équipes qui jouent tellement offensivement, parce que quand on regarde bien les trois premières d'Angleterre, ils sont 3 et 4 buts, ils sont encaissés en 3 matchs.
Tout à fait, c'est beaucoup.
La question est là, parce que Manchester City aussi, il prend trop de buts. Oui. Quand on pense le temps qu'ils ont le ballon, c'est comme Tottenham. Tottenham, le dernier match qu'il a perdu là, vous savez combien ils ont eu
80% de possession de balle,
80% de possession de ballon, ils ont eu deux occasions de but. Ça sert à quoi avoir 80% de ballon, la possession du ballon?
Si tu arrives pas. C'est un autre débat, Carlos.
Tu arrives pas à créer.
Je suis pas sûr que ce soit le péché mignon de Liverpool de conserver le ballon pour conserver le ballon.
Non, lui, il peut pas le conserver autant que Manchester City.
C'est la prise de risque aussi qui, je trouve, est intéressante. Pour une fois qu'on a un entraîneur, je trouve, qui lâche les chiens. Oui, allez-y, les gars.
Ça, on va pas se plaindre de ça. Encore une fois, c'est entre guillemets.
C'est Arsenal en face, qui l'emmène.
Tout à fait.
C'est pas non plus, je sais pas qui.
Avec Liverpool, avec City, avec quelques autres, c'est un déséquilibre assumé. On préfère aller de l'avant et effectivement marquer plus. D'ailleurs, Jurgen Klopp, il y a quelques années, il l'avait dit, je préfère gagner 5-4 que 1-0. Il l'assume.
Mais
l'année
dernière, c'était quand même plus solide. Enfin, les options étaient peut-être un petit peu moins à risque.
C'est le début.
Voilà. Ça dépend le milieu de terrain qui fait jouer. Si fait jouer un milieu de terrain beaucoup plus défensif, au moins défensif.
Là, du coup, Naby Keita, en tout cas, ne peut pas faire partie de ce milieu de terrain pour l'instant.
C'est plus Fabinho, Henderson, Milner, notamment.
Blessé, Saïd Hamda.
Je voulais revenir sur ce que disait Salim. C'est un déséquilibre totalement assumé. Ça veut dire qu'ils vont chercher à mettre 3, 4 buts. Si tirent, on a encore mis 3 ce week-end et ils prennent un but, mais c'est sur coup de pied arrêté où ils y peuvent pas grand chose. C'est totalement assumé. Ça veut dire qu'on va chercher à marquer 4, 5 buts et quitte à en prendre un ou deux parce qu'on se projette tellement en avant qu'on prend des contres forcément. Mais c'est pas tellement dérangeant quand on voit que City sur son premier match gagne 5-0. Voilà, au final c'est une logique, mais la logique pour l'instant fonctionne et on est encore qu'en début de saison, donc la solidité défensive de Liverpool, elle est encore en rodage. On pourra faire un bilan après 2-3 mois déjà.
Tout à fait. Franck Simon.
C'est l'ADN de la Première Ligue. Aujourd'hui, si la Première Ligue est autant suivi, apprécié à travers le monde, dans tous les pays. Allez sur le continent africain, vous allez voir comment les gens se régalent. Et malheureusement, boudent leurs propres championnats nationaux. C'est parce qu'il y a les matchs de Première Ligue le samedi et le dimanche. Et ils sont devant les écrans pour ça, pour voir du spectacle. Donc nous, on va pas bouder notre plaisir. Après, moi je pense qu'après, sur la saison, ça peut se lisser concernant Liverpool. On verra contre les équipes peut-être un petit peu plus faibles, comment ils vont se comporter. Et puis là, l'Europe aussi, quand ça va arriver.
Et on imagine également que les Africains admirent bien justement les Africains qui brillent sur les pelouses anglaises. Il y en a évidemment du côté de Liverpool, il y en a également du côté d'Arsenal, Aubameyang bien sûr, mais également l'Ivoirien Nicolas Pépé, pris RFI Marc Vivien Foé il y a quelques mois, mon cher Franck. Il voulait briller à l'occasion de sa première titularisation sous le maillot des Gunners. S'il s'est procuré quelques situations en première période, Salim, manque de réalisme du coup. Première réussie ou pas?
On va dire 50-50, parce que Nicolas Pépé, c'était donc sa première titularisation. Il a voulu montrer certaines choses. Il était avec Aubameyang en attaque. Lacazette était lui sur le banc. Il y a eu des bonnes choses, parce que techniquement, on le sait tous et on le voit depuis le début de la saison. À chaque fois qu'il entre, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est dans ses choix. Dans ses choix où il va devoir comprendre qu'il faut beaucoup plus lever la tête. C'est très bête ce que je suis en train de dire, mais peut-être qu'en Ligue 1, là où il savait où était Ikoné ou Bamba, et se trouvait les yeux fermés, et après il n'y avait plus qu'à marquer, là il va falloir comprendre encore plus le jeu avec Aubameyang, avec Ceballos et d'autres joueurs. C'est vrai que, alors c'est très bête ce que je vais dire, mais il va falloir qu'il apprenne à utiliser son pied droit. Aussi, il a amendé une occasion incroyable où il dribble Robertson et il ne veut utiliser que son pied gauche. Plusieurs tentatives que du pied gauche. Il va devoir apprendre que oui, il a un pied droit aussi et qu'il ne sert pas qu'à monter dans le bus.
Ah, c'est un métier avant son train, mon cher Carlos Bianchi.
Non, parce que le problème, je crois que nous, les droitiers, on a plus... on se concentre plus pour apprendre à frapper du pied gauche. Par contre, le gaucher, il s'en fiche et perd du monde au pied droit. Il fait tout avec le pied gauche.
C'est toujours
même,
vrai, ça.
Même Salah, Armand, il marque du pied droit. Même Messi, il marque du pied droit. Et nous, ça dépend. Regardez, le premier but qu'il marque Choupo, c'est du pied gauche. Il est droitier.
Le pivot,
effectivement. Il pivote comme ça, il frappe du pied gauche parce qu'il est pour le pied gauche.
Franck Simon.
Moi, je suis assez d'accord sur Nicolas Pépé, mais je voulais juste que Salim nous précise un truc, parce que je l'ai lu, je n'ai pas vu les highlights, les extraits du match. Il aurait pas mis un petit pont au meilleur défenseur du monde dans cette rencontre?
Pas un petit pont, un dribble à Virgil van Dijk.
Ah, il a mis un dribble. Précis,
exactement.
Merci de
un dribble.
C'est pas le défenseur qui ne se faisait jamais dribbler l'an passé.
Mais c'est vrai, il
effectivement, Pépé est réussi à passer Virgil van Dijk.
Bon, c'est pas mal.
C'est le premier dribble que subit Virgil van Dijk après 50 rencontres. C'est un fait aussi.
Bravo Pépé.
Après, voilà, c'est le genre de stat qu'on plie et qu'on jette plus ou moins à la poubelle, parce que ce qui compte, c'est au final, peut-être de marquer un but plus que de dribbler un joueur.
Pardon, oui, puisque
final... Mais je veux que tu nous le précises quand même.
Au final, Franck Simon, défaite d'Arsenal, qui avait bien débuté cette première ligue de matchs de victoire. On se demandait comment les Gunners allaient négocier ce premier test. C'est plutôt un échec au final.
Il n'est pas très costaud. Arsenal, quand il va à l'extérieur, c'est pas une équipe forte.
Et d'une part, et puis là on va juste, si vous me permettez, s'arrêter un instant sur les individualités, parce qu'il y avait un joueur, David Luiz, il a été pris pour potentiellement solidifier cette défense.
Il concède un penalty.
Il a été, on va utiliser le terme, alors c'est très dur, je n'ai pas été joueur comme Carlos, mais il a été catastrophique sur cette rencontre-là. Il a tout laissé passer, concède un penalty sur le but de Salah. Il se fait manger par l'Égyptien également. David Luiz est censé solidifier et au final, il fait trembler sa défense. Après, quand en défense, vous avez David Luiz et Socratis, ce n'est pas non plus garantie absolue pour la défense d'Arsenal.
Vous avez la réponse sur. Vous avez aussi la réponse sur certains clubs, des clubs qui sont haut de tableau en anglais, voilà, qui se font en fait plomber par. Ça peut être un joueur en l'occurrence, un joueur, une recrue importante, voilà. Donc, faut pas s'étonner s'il concède beaucoup de buts, si le gars il est pas au niveau en ce moment, et c'est inquiétant pour la suite.
Oui, alors des limites, c'est inquiétant. Vous êtes d'accord, Saïd Hamda? Aucun motif d'optimisme pour les supporters des Gunners d'Arsenal?
Si, ça peut évoluer avec le temps. Maintenant, David Luiz, il a été pris pour son expérience, mais on connaît tous ses sauts de concentration. Là, il a pas été bon, mais malheureusement, ça arrive à tous les joueurs. Faut pas le blâmer uniquement sur ça. Après, je pense qu'aussi Emery s'est un peu trompé dans sa composition d'équipe quand il met pas en place Alexandre Lacazette en pointe. Je pense qu'il y a des mauvaises attentes sur Nicolas Pépé. C'est pas un buteur. Faut le savoir, il a mis 22 buts la saison passée. Il a plafonné, il était au max. La saison d'avant, il était à 13 buts. La saison d'avant, il était même pas à 5 buts. C'est un joueur technique qui peut apporter du danger devant, mais c'est pas quelqu'un qui va marquer des buts. Donc je pense qu'aussi Emery s'est un petit peu trompé dans la composition qu'il a mise. Et malheureusement, faut être aussi factuel. Liverpool, ça reste en termes d'effectifs, de cohérence, ça reste au-dessus Arsenal. Donc le score est quelque part logique.
Oui, puisqu'on va élargir pour refermer ce débat. Salim, ce match, il montre bien que, voilà, Liverpool et Manchester City sont très loin de devant les autres, et que des équipes comme Arsenal ne se battent pas pour le titre.
Carlos, il cherche au large, Carlos.
Ne commencez pas à tuer le championnat après 3 journées de championnat, il en reste 35 derrière, s'il vous plaît.
C'est pas moi qui vais les tuer, c'est
les jumelles, Carlos, pour les chercher, les jumelles.
J'espère que ce message ne va pas être entendu par les 18 autres clubs de première ligue quand même. Après, oui, l'année dernière, il y avait un mano à mano entre deux équipes, et le reste était très loin.
Cette année, ça va être pareil. C'est pour la Coupe d'Europe, ça va être pareil. J'inclus Paris Saint-Germain.
Il inclut. Vous pensez que le Paris Saint-Germain est au niveau de City et de Liverpool?
Non, mais je l'inclus. Je l'inclus à la Coupe d'Europe.
C'est-à-dire, le PSG fait partie des grandissimes favoris.
Il fait les équipes favorites. Oh là là.
On enregistre ça, on est d'accord.
Oui, évidemment.
Magneto, maestro.
On enregistre ça.
Évidemment qu'on va l'enregistrer.
J'y crois.
Mais on verra déjà avec le tirage au sort.
Complet.
Ça sera une indication.
Complet. Paris Saint-Germain au complet, voilà. Pour moi,
c'est impossible en soi. Ouais.
Pourquoi?
Paris peut monter. Paris peut même chose au complet, tout ça.
Et après, Manchester City et Liverpool sont.
Donc Manchester City et Liverpool vont faire la course en tête en Première Ligue, et en plus vont se battre pour la victoire en Ligue des Champions. Voilà les prédictions de Carlos Bianchi, qui s'y connaît quand même un petit peu en football.
Guardiola, il va finir pour gagner une Coupe d'Europe, peut-être.
Ça serait bien.
C'est son objectif numéro 1, on le sait.
Sauf Barcelone, il a pris Bayern, Manchester City avait des budgets incroyables, il n'arrive pas.
C'est son objectif, on le sait.
Oui, quel mauvais entraîneur ce Pep Guardiola. Et si on prenait justement la direction de l'Espagne, messieurs, pour parler d'un joueur qu'on connaît bien, très bien, et d'un autre qu'on connaît beaucoup moins. You shake my nerves and you rattle my brain. You broke my will, but what a thrill. Alors ça vous fait vibrer, mon cher Franck Simon.
Je suis un petit vieux, qu'est-ce que vous voulez, mon petit Hugo?
Jerry Lee Lewis.
Lewis, exactement.
Ouais. Bon, ce qu'il a fait dans sa vie. Un des pionniers du rock'n'roll. C'est un autre débat.
Ce qu'il a fait dans sa vie, c'est autre chose, mais le musicien parfait. Et ça lance bien la Liga, ça, ok.
Une belle illustration sonore.
Oui.
C'était à peu près au même moment. Dans les années 50, Carlos Bianchi était un tout jeune garçon.
Mais moi, pareil.
Elvis, il était beau en plus.
Il était beau.
Pas aussi beau que vous, avec vos cheveux longs. J'invite les plus jeunes à aller voir les photos, mon cher Carlos. Griezmann on fire, Griezmann en feu. Il était attendu, Grisou, pour sa première
Grisou contre nous.
Sous les couleurs, bien joué mon cher Franck. Sa première au Camp Nou sous les couleurs du Barça, il n'a pas déçu face au Betis Séville. Il a même signé un festival, nous dit le Mundo Deportivo en une. En l'absence de Messi, de Suarez, de Dembélé, l'ancien de l'Atlético a sorti le grand jeu, doublé, passe décisive, confetti même pour une célébration à la LeBron James. Alors là, on est loin de Jerry Lee Lewis. Griezmann, taille patron, mais alors... Cette petite question, est-ce qu'il a été libéré parce qu'il est bon? C'est une hypothèse largement plausible, mais n'a-t-il pas également été libéré par le fait que, eh bien, ses compères d'attaque, ou ceux qui deviendront ses compères d'attaque, n'étaient pas là, et notamment un certain Lionel Messi, Carlos Bianchi?
Il faut attendre qu'ils jouent tous les trois ensemble. Il faut attendre. Mais je crois qu'il est... On parle d'un champion du monde. On ne parlait pas d'un... quand tu joues au tarot, le 4. Comprends, tu joues avec tu parles d'un champion du monde. Alors lui, pour avoir arrivé au Barcelone, il a démontré pendant des années qu'il était très très fort. c'est pas pour quand il va jouer avec Messi et Suarez, peut-être qu'il va être encore plus fort. Parce que les joueurs forts, ils se font plus forts encore.
Donc là, le sera moins aussi.
Là, on fait simplement du mauvais esprit ou bien c'est la question tactique, parce que le football, c'est aussi ça, se pose quand même Saïd Hamdaoui.
Peut-être qu'il sera moins fort aussi avec Messi et Suarez. Pourquoi? Parce que là, il était dans les dispositions parfaites. Griezmann, c'est un joueur qui aime bien jouer tout seul devant, qui attire les ballons. Avec Messi et Suarez, ils vont peut-être se marcher sur les pattes. C'est un leader, il a toujours été à l'Atlético, il a été en équipe de France. Peut-être qu'il sera meilleur aussi, c'est une éventualité. Mais il peut l'être moins, il peut se faire marcher dessus aussi.
Les grands joueurs, ils arrivent à se comprendre.
Après,
les grands joueurs, ils arrivent à se comprendre.
Là où Griezmann peut-être sera intelligent, c'est que déjà, il idolâtre beaucoup Messi. Donc, il lui laisse beaucoup de place et il fera probablement alors, avec Suarez. Donc, il le laissera jouer.
Justement, Salim Franck, je vous donne la parole dans quelques instants. Je veux juste que Carlos Bianchi réagisse. Vous êtes entraîneur. Vous avez, voilà, tous ces talents sous la main.
Je voulais bien avoir le 3.
Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Vous les enfermez dans un schéma tactique? Toi, tu vas jouer à droite, tu vas jouer à gauche ou vous leur dites, débrouillez-vous?
Quand on n'a pas le ballon, surtout, il faut savoir ce qu'on fait. Les 3.
Et là, Griezmann, il est irréprochable.
Bon, non, mais quand on n'a pas le ballon, il faut savoir que nous sommes en infériorité numérique, disons, du point de vue qu'on a 3 joueurs très offensifs. Alors, il faut se replacer. C'est le plus important, ça. Mais après, quand on a le ballon, que chacun y cherche sa place. Ouais, on sait très bien que de tous les 3, le vrai avant-centre, c'est Suarez. Alors, Suarez, à droite, à gauche, ça sert à rien. Il faut qu'il soit à la finition. Alors, les autres du poste, qui joue Messi, Griezmann, à droite, à gauche, c'est à eux de choisir. Comprends?
Mais je comprends.
C'est pas trop, c'est pas trop difficile. La question, c'est quand on perd le ballon, il faut se replacer. Et alors, tous les 3, il faut avoir l'intelligence de dire, bon, si je suis à droite, je me replace à droite.
A priori, l'intelligence et l'envie de se sacrifier,
aujourd'hui, on n'a pas tu peux pas avoir un feignant dans l'équipe, aujourd'hui.
Et j'ai envie de dire, dans ces 3 joueurs, que ce soit Suarez, Messi et Griezmann, alors oui, Messi n'est pas peut-être le joueur qui se repasse le plus, mais offensivement parlant, ces 3 joueurs sont tellement intelligents. Et j'ose croire que les grands joueurs, ceux qui sont intelligents, savent justement jouer ensemble, savent trouver l'autre, savent comprendre comment l'autre va se déplacer. Est-ce que, on est en train de se poser la question, est-ce que Griezmann, donc champion du monde comme Carlos l'a dit, un joueur qui a bataillé, et plus que bataillé, il a réussi avec Diego Simeone, l'un des entraîneurs les plus, qui demandait tellement à ces joueurs. Donc, est-ce que ce joueur-là peut jouer avec l'un des 2 meilleurs joueurs du monde et l'un des attaquants, alors qu'il l'année dernière, ok, avait un peu plus des problèmes de finition, mais qui reste un attaquant remarquable? Ben, la réponse est une évidence, en fait.
Et si on l'écoutait justement, Antoine Griezmann.
Hicimos un grand jeu con muchas ocasiones.
Nous avons produit du beau jeu avec beaucoup d'occasions et nous avons pris du plaisir. J'espère que ce sera toujours comme ça. Nous avions envie de changer les choses après la défaite à Bilbao. Nous avons beaucoup progressé, mais il nous reste encore des détails à améliorer. Quand il manque des joueurs importants, c'est toute l'équipe qui doit hausser son niveau. Moi tout seul, je ne peux rien faire. Si je marque ou je donne des passes décisives, c'est avant tout grâce à mes coéquipiers. Nous sommes une équipe et quand il y a des blessures, la meilleure chose est que les entrants jouent leur rôle. Maintenant, sur mon deuxième but, avec cette frappe enroulée, j'ai vu Léo Messi le faire à l'entraînement. J'ai juste essayé de le copier.
En tout cas, dans sa communication, Franck Simon, il est parfait.
Antoine
Griezmann, un petit hommage à Messi.
Il abuse, je l'aime bien, ça.
L'hommage à ceux qui ne sont pas là, l'hommage aux coéquipiers.
Mais, non, mais il est intelligent. C'est lui la pièce rapportée dans cette histoire. Il vient d'arriver, donc il n'a pas vraiment le choix. Il a l'intelligence.
Se fondre dans le moule, quoi.
Il veut et il doit se fondre dans le moule. Il doit trouver sa place. Il faut pas qu'il fasse de l'ombre aux autres et en même temps trouver sa place. Mais il peut pas être moins bon que ce qu'il est actuellement.
En plus, Hugo, il a 27 ans. Messi, il a 32. L'autre, il a 32, 33. Alors, dans 2-3 ans, les autres, ils vont finir sa carrière et encore, lui, il va rester 4 ans.
Il sera toujours là,
comprends? Alors, lui, il va se mettre au service. Parce que ce qu'il a dit
tout à l'heure,
lui, ce qu'il cavalait Atlético Madrid comme attaquant, lui, parce que Atlético Madrid, les premiers défenseurs, c'est les attaquants. On rigole pas là-bas. Et alors, tout le sacrifice qu'il a fait, lui, au Atlético Madrid, ce qu'il fera à Barcelone, il n'a rien à voir.
Et il va sacrifier parce que le leadership revient toujours au même petit Messi. Et du coup, enfin, au grand Messi. Mais forcément, à un moment donné, l'autre sera bien content de bénéficier de son travail, ses passes et sa vista. Donc, ils vont s'entendre.
En tout cas, il a remis le Barça sur les bons rails. Le Barça qui avait perdu à l'occasion de la première journée de Liga sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Il en parlait, Griezmann, et qui donc là signe sa première victoire de la saison en Liga. Saïd Hamda, il n'a pas été le seul à faire trembler les filets ce week-end pour le Barça, Antoine Griezmann. On va parler d'un buteur précoce, le mot est faible, un talent brut, un Bissau-Guinéen, Ansu Fati, 16 ans, buteur pour sa première avec le Barça, rien que ça.
C'est ça, Ansu Fati, retenez bien ce nom. Il a quitté le FC Séville pour rejoindre la Masia à 10 ans, qu'il n'a plus quitté depuis. Et on l'a vu pour la première fois avec l'équipe A du Barça ce dimanche face au Real Betis à tout juste 16 ans. 78e minute, Carlos Pérez quitte la pelouse pour laisser place au jeune attaquant espagnol originaire de Guinée-Bissau, comme vous l'avez précisé. Fati est tout simplement devenu, à 16 ans et 298 jours, on va être précis, le deuxième plus jeune joueur à commencer un match sous le maillot du FC Barcelone. Pour retrouver plus précoce, il faut remonter à 1941 avec Vicente, je ne sais pas si on le dit comme ça, Martinez, on va se cantonner à Martinez. Martinez avait été lancé dans le grand bain à 16 ans et 280 jours. À titre de comparaison avec le présent, Lionel Messi n'a entre guillemets, qu'à 17 ans et 144 jours en octobre 2004. Donc le jeune joueur de 16 ans a d'ailleurs reçu les félicitations de la Pulga qui l'a enlacé après le match et lui a consacré un post sur Instagram. Une immense fierté aussi pour le papa qui a déclaré tout simplement qu'il pouvait mourir tranquille désormais après avoir vu son fils jouer pour le Barça.
On va l'écouter le papa justement.
Je sais qu'on peut tout attendre du football, mais là quand même, c'est quelque chose, on parle du Barça, pas d'une équipe quelconque. C'est le Barça. Quand on a appris qu'il était convoqué avec l'équipe première, tout le monde pensait que ça ne pouvait pas être vrai. Aujourd'hui, je peux mourir, oui, même que ça ne sera pas vraiment grave, car mon fils a joué au Barça pendant toute la semaine. Ansu n'arrivait pas à dormir, ni même à manger. Sa mère lui disait « Mange, moi aussi », je lui disais. Mais il me répondait « S'il te plaît, papa, je ne peux rien avaler, je n'ai pas faim ». Je lui disais « Comment ça, tu n'as pas faim ?» Mais le fait est que nous autres, on n'arrivait pas à dormir non plus.
Et voilà le père de famille qui vit aux côtés des siens, un rêve éveillé. Son petit Ansu Fati, à même pas 17 ans, a brillé sous les couleurs du Barça. Alors on va dire ce qu'on dit un peu à chaque fois, qu'une pépite comme ça fait montre le bout de son nez, pas d'enflammade. Et du coup, c'est un petit peu contradictoire parce qu'on participe un petit peu à cet emballement médiatique.
Non, on note qu'il émerge et c'est bien ce qu'il fait. Exactement. Mais après, on ne sait pas, on n'a pas une boule de cristal pour deviner où il va continuer. Est-ce qu'il va continuer? Il aura des morceaux de match, ça c'est bien, mais c'est pas facile d'exister aux côtés des monstres sacrés qu'on a cités. On était en train de dire que pour Grisou ça allait être compliqué. Alors imaginez pour un gamin comme Ansu Fati.
Ah, mais il a 17 ans.
16 ans.
On le protège, la cellule familiale doit le protéger.
Il a 100 ans. Mais oui.
Et comme Franck le disait quand on écoutait les propos du papa, il y a eu tellement de jeunes à Barcelone où on s'attendait, on se disait attention, ça peut être la future. Ça peut être... Et au final, ce ne sont restés que des futurs.
Et Goyan Cric, c'est le meilleur exemple.
Barcelone, il a un exemple, Dembélé. Dembélé, ça fait 3-4 ans, il faut un malheur. Ou non? Quand il a démarré Dembélé.
Il est arrivé en 2017, hein. Ça fait 3-4 ans.
Ça fait deux ans. Mais il avait quel âge? Il avait 19 ans.
Il a des problèmes de maturité, clairement. Oui.
Il faut voir comment ils vont grandir.
Mais il vient pas de la Masia. Alors que ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il est issu de la Masia, il connaît l'environnement et ça peut lui permettre de gagner du temps, mais encore une fois, laissons-lui le temps de s'épanouir.
Comment on fait pour couver comme ça, pour guider
la question, c'est le conseil
du maître.
S'il aura sa place avec tous les grands joueurs qui s'achètent toujours Barcelone. Attention.
En tout cas,
il continue à acheter parce que le jour qu'il va arrêter Messi et Suarez, ils vont continuer à acheter des grands joueurs.
En tout cas, il y aura toujours une place pour vous autour de cette table, la grande table de l'amitié et de Radio Foot.
Notre légende, Carlos
Bianchi. Merci. Merci Franck Simon. Merci Selim Baoumgali. Merci Saïd Hamda. Merci Laurent Salardo. Merci David Finzel. Radio Foot revient demain, bien évidemment. En attendant, excellente soirée à l'écoute de RFI.